Bonjour à tous, je suis Karim Bourras de l'agence NIL et vous êtes sur le podcast Industrial Growth. Le but de ce podcast, c'est de pouvoir échanger sur des problématiques qui permettent à des PME industrielles de grandir, de se développer. Donc, on aborde un petit peu tous les sujets, essentiellement des sujets qui vont être liés au marketing et au sales dans l'industrie, mais pas que. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit Grégory Maubon. Alors, je vais le laisser se présenter dans un petit instant, mais parce qu'il a beaucoup de casquettes, donc j'ai un peu de mal à quelle casquette attribuer. Donc, Grégory Maubon, qui va nous parler aujourd'hui un peu plus spécifiquement de réalité augmentée, quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et Grégory, ben, il se trouve que c'est un peu un spécialiste de la question. Grégory, si je résume un peu ton parcours, tu fais partie d'une start-up qui s'appelle HCS Pharma. Donc tu vas
C'est
pouvoir nous
ça.
expliquer un petit peu ton rôle. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu étais aussi ambassadeur au Tweet. Je sais pas si c'est un titre honorifique ou
Tout
c'est...
à fait, c'est purement honorifique.
D'accord. Ok, ça c'est intéressant aussi parce que tu m'expliqueras un peu le lien
OK.
entre la réalité augmentée, la pharma et au Tweet, parce que ça peut être intéressant de voir comment tu es devenu ambassadeur au Tweet. Et tu es également le cofondateur avec Olivier, avec qui j'ai échangé aussi sur LinkedIn.
Oui.
Olivier qui était, vous êtes tous les deux les fondateurs de l'association Era Pro. Donc, si j'ai bien compris, une association qui vise à promouvoir et à diffuser un peu les usages de la réalité augmentée, notamment dans le secteur industriel, parce que c'est ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Grégory, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire un petit peu ce qui t'a conduit progressivement à t'intéresser à ces questions-là?
Alors, rapidement, hein, comme tu l'as dit, aujourd'hui, moi, j'ai un poste de coordinateur numérique chez HCS Pharma, donc une start-up de l'industrie pharmaceutique. On en reparlera un tout petit peu après parce qu'on utilise, nous aussi, la réalité augmentée dans notre environnement biotech parce qu'on utilise des plateformes, en fait, d'automatisation, des plateformes robotiques. Et très clairement, comme dans à peu près toutes les industries, on a besoin d'outils pour voir les plateformes, voir les outils avant qu'ils ne soient installés sur site. Ça paraît bête, mais pour vérifier que tout rentre bien comme on veut et que l'ergonomie de ce qu'on a imaginé, ben, est à peu près correcte par rapport aux pièces, au site, etc.
D'accord.
Donc, on pourra revenir là-dessus et puis faire le lien peut-être sur d'autres industries. Moi, à l'origine, je suis issu de la recherche publique, avec un parcours assez classique, hein. Un parcours qui a commencé plutôt du côté informatique et code dans la recherche publique, et puis enfin en physique, hein, mais on fait beaucoup de code. Et puis après, j'ai orienté moi ma carrière vers plutôt du système, en tout cas dans un poste de SI, de système d'information sur une grosse entité publique, avec le lien avec les utilisateurs et vous savez, le helpdesk, le truc qu'on appelle quand
Ouais.
tout va mal en général.
Quand tout va mal.
Voilà, c'est toujours que ça. Donc moi, j'ai travaillé là-dedans et puis après, je suis passé en chambre de commerce pour des missions qui étaient plus orientées vers le marketing et l'utilisation, l'usage des outils numériques.
D'accord.
Et dans ce parcours, à un moment, il y a quand même quelque chose, moi, qui me plaît tout le temps, c'est l'interface entre nous, les gens et ces outils numériques, en tout cas ces data qui sont tout autour de nous. Les interfaces, vous les connaissez, hein, tu les connais, il y en a plein. Là, on en utilise plusieurs, webcam, écran, souris, clavier. Et une de ces interfaces, en tout cas une composante, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée qui permet d'avoir accès, si on veut rester très très large, hein, de façon contextualisée à des données. D'une façon simple, hein, on peut s'imaginer qu'on a la que c'est un ensemble de technologies qui va nous permettre d'accéder à la donnée, mais au bon moment, dans le bon contexte, pour la bonne personne, etc. Et c'est par ce biais-là, comme tu l'as dit, qu'avec Olivier, on a créé Era Pro il y a 6 ou 7 ans maintenant, avec l'objectif de mieux faire connaître la réalité augmentée, défricher les usages, vulgariser le concept, hein, très clairement, expliquer ce que c'est et surtout expliquer ce que plein de gens en font dans tous les domaines. On parle de l'industrie, mais même dans l'industrie, les usages de la réalité augmentée vont de la formation au marketing, de la communication à la validation et le contrôle qualité, la sécurité. Les usages sont multiples. Et avec Era Pro, on regroupe des gens qui sont intéressés par ce concept-là et on explique, en tout cas, on met en valeur des cas d'usage pour essayer d'illustrer ce que les gens, ce que les industries, ce que les institutions pourraient faire de cette technologie-là.
Ok. D'accord. Juste pour revenir un petit peu sur ton rôle chez HS Pharma, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant. Tu me disais que donc vous aviez vous-même implémenté ça chez vous.
Oui.
Voilà, tu peux nous expliquer un peu pour quels besoins et un petit peu le parcours. Enfin, comment on arrive dans une start-up pharmaceutique à avoir besoin de ce type d'outils. Et puis peut-être avant, nous expliquer un petit peu ce que c'est que la réalité augmentée, parce que là, on vient d'en parler. C'est une interface, c'est ce que tu viens un peu de nous expliquer. Concrètement, c'est quoi si je joue un peu le rôle du naïf, c'est quoi? C'est des lunettes que nous vend Samsung quand on va acheter un téléphone portable? C'est Oculus? Enfin, moi, j'avais testé plein de trucs. C'est la console de jeu de mon gosse? Ou comment ça peut se matérialiser?
Alors, le mieux, si tu veux, c'est de ne plus penser au matériel. Le matériel, c'est une chose, mais il faut penser à la réalité augmentée comme un ensemble de technologies qui permet très concrètement d'avoir accès à des données de façon simple et contextualisée. Ça, c'est la définition théorique, en temps réel, en 3D, etc. En pratique, ça veut dire, on va sortir un peu du contexte industriel, je suis dans un musée, je suis devant un tableau, je vais pouvoir, en regardant ce tableau, avoir accès à tout un tas d'informations qui sont autour de ce tableau-là. Je vais le regarder à travers mon smartphone et je vais voir apparaître la biographie de l'auteur. Je vais le regarder à travers des lunettes et je vais peut-être voir, tu sais, plusieurs couches du tableau, l'esquisse préparatrice, le premier tableau, les retouches qu'ont fait le peintre, ou alors ce que les restaurateurs ont fait pour restaurer justement ce tableau, peut-être des images aux rayons X, aux infrarouges, etc. En fait, peu importe l'interface, enfin, le matériel que je vais utiliser, l'objectif, c'est que là, moi, présent, devant ce tableau, je vais pouvoir accéder à beaucoup plus d'informations, et ce, de façon naturelle. Je vais pouvoir tourner autour, je vais pouvoir m'avancer, reculer. Je vais vraiment avoir l'impression que la réalité, ma réalité est augmentée.
Ça me fait penser à Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée.
Pokémon Go, c'est une partie de réalité augmentée. D'accord. Parce que si tu l'as essayé, on peut avoir l'illusion que le Pokémon est dans un environnement. D'accord. Après, c'est de la réalité augmentée très très légère. D'accord. Parce que l'interaction entre le Pokémon que tu vois et son environnement est très faible, et c'est surtout de la réalité augmentée, pour moi, malheureusement, extrêmement mal utilisée, parce que quand tu joues à Pokémon Go, je suis niveau 25, quand tu utilises le mode réalité augmentée, ça t'apporte rien, ouais. Et au contraire, même, ça ajoute de la difficulté à jouer, ça n'a vraiment aucun intérêt. Bah, si, tu fais une photo du Pokémon sur la tête de ton voisin, mais après, tu arrêtes, quoi. Donc,
ouais,
oui, il y a une partie de réalité augmentée là-dedans, en tout cas de la technologie. Par contre, l'usage, lui, il est vraiment pas là, en tout cas pour moi.
D'accord. Ok. Donc, chez HS Pharma, qu'est-ce que vous faites?
Alors, je vais t'expliquer très rapidement pourquoi on a utilisé de la réalité augmentée. Donc, nous, on teste des composés médicaments. Pour aller très rapidement, on a des composés chimiques et on les teste sur des cellules pour savoir s'ils sont efficaces, s'ils sont toxiques, s'ils sont efficaces contre des maladies, etc. On a besoin de faire ça de façon, on dirait en informatique, on a besoin de faire ça en parallèle. Donc, on fait beaucoup de tests à la fois. Et pour faire beaucoup de tests à la fois, on a des robots, comme dans l'industrie classique. Hein, on a des robots qui préparent les choses. Et on a une plateforme robotique, une plateforme d'automatisation qui va faire exactement comme dans les chaînes où tu produis une voiture, chaque robot va faire son rôle et puis va aller de la première étape à la dernière pour avoir tout le process. Donc, pour installer cette plateforme, comme dans toutes les industries, il faut la penser, Il faut la designer sur écran avec des modèles 3D. Il faut vérifier que quand un bras robotique prend un truc d'un côté, il peut bien le mettre de l'autre côté. Enfin, il faut faire tout un tas de trucs comme ça. Et nous, on avait besoin d'aller plus loin que ce modèle 3D sur écran. C'est de se dire, j'ai déjà mon laboratoire, je sais où je vais mettre la plateforme. Je voudrais voir cette plateforme virtuellement, entre guillemets, poser le modèle 3D en plein milieu de mon laboratoire et vérifier tout simplement que ben, je peux tourner autour, que les distances sont bien respectées, que je peux amener un chariot pour récupérer des trucs et en enlever, que les connexions électriques, les fluides, les gaz sont bien au bon endroit, etc. etc. Et donc, on a fait de façon très simple cette installation virtuelle avec les HoloLens hein, de Microsoft et l'agence DAD de Lille. On est allé poser virtuellement le modèle 3D de l'ensemble de la plateforme dans le labo.
D'accord.
On avait le constructeur de la plateforme, en tout cas l'intégrateur. On avait la présidente de la société. Chacun avait un HoloLens sur la tête. Et ben, ils discutaient comme s'ils étaient autour de la plateforme telle qu'elle sera montée. Et ils ont pu, de cette façon-là, voir ben, qu'il y avait un petit problème de taille d'un côté, que de l'autre côté... il y avait quelque chose de mal positionné parce que quand on rentrait par la porte, on pouvait pas y avoir accès directement. Des choses qui paraissent très simples, mais qui ont évité de monter la plateforme et de se rendre compte au moment du montage qu'il y avait un problème. La plateforme vient des USA, hein, donc une fois qu'elle vient, il vaut mieux qu'il y ait pas de problème. Parce que si elle doit repartir...
Donc c'est une démarche finalement qui
est... Voilà une illustration très simple. Mm. Ben, l'idée c'est d'avoir des problèmes avant.
Avant
qu'ils soient graves.
Le matos. Ouais.
Voilà. Quand tu as un modèle 3D et que tu fais ta validation dans ton atelier, on pourrait prendre plein d'exemples. Un imprimeur qui veut installer une chaîne d'impression dans un atelier, il peut faire la même chose que ce qu'on a fait nous. L'idée c'est de dire je vais regarder tous les problèmes que j'avais pas vus sur l'écran, sur un écran d'ordinateur, parce que quand tu vois un modèle 3D sur un écran d'ordinateur, tu vois globalement les problèmes pour te rendre compte des tailles, pour te rendre compte des chemins, un truc tout bête, hein, aller de la porte à l'endroit où tu dois poser des trucs, c'est pas si évident que ça. Là, avec de la réalité augmentée, c'est extrêmement naturel. Tu poses le casque sur la tête et c'est parti. Et tu vois qu'il y a un petit problème là parce que l'endroit où tu dois mettre des plaques est trop haut. Donc, tu modifies directement sur le plan. Tu fais tous ces petits ajustements et tu as évité 95% des choses qui te feraient perdre un temps fou s'il fallait les modifier une fois sur place.
Un temps fou et de l'argent aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut… Aussi. On peut tout à fait, donc si je résume un petit peu, utiliser la réalité augmentée dans des phases de préconception, soit de produits, soit d'installation.
Exactement. De chaîne. C'est d'autant plus simple que aujourd'hui, dans 99% des cas, pour des installations comme ça, tu as les modèles 3D. Donc tu réinventes pas la roue. Les modèles 3D que tu utilises naturellement, tu les prends, tu les adaptes un peu. Hein, l'agence DAD qui m'a aidé à réaliser ça. Ils savent toutes les petites imperfections du casque, par exemple, de l'HoloLens, toutes les petites subtilités. Ils savent adapter le modèle, mais bon, en termes de coût et de surcoût, c'est négligeable par rapport au prix de la plateforme.
Ok. Et par rapport aux gains ou justement aux risques que tu pourrais avoir si tu n'avais pas fait ces tests-là avant d'installer
le matériel. Voilà.
D'accord. C'est quoi en termes de budget? Parce que je veux pas forcément de chiffres précis, c'est peut-être des données que ça représente un pourcentage d'un projet comme celui que tu viens de décrire. C'est un surcoût, enfin entre guillemets, c'est un coût de combien?
Aujourd'hui, nous ce qu'on a fait, alors on a fait au plus simple. Hein, vous pouvez jeter un œil sur YouTube, sur la chaîne HS Pharma. On a mis la vidéo pour montrer tout le processus d'utilisation. Vous verrez qu'on a fait au plus simple. Justement, on voulait être très simple parce que les utilisateurs, le leitmotiv, c'est de dire les utilisateurs, on va déjà ils vont déjà être surpris quand ils vont voir un casque HoloLens. Déjà, ils n'ont pas l'habitude. Enfin, si tu vois ce que c'est pas, non, ça surprend un peu. Ouais. Par contre, l'objectif, c'est que en moins de 2 minutes, une fois qu'on leur a expliqué comment ça marche, on leur met sur la tête, ils oublient tout et ils se concentrent sur les problématiques de leur plateforme robotique.
D'accord.
L'intégrateur et le client. Et ça a marché. Donc, on doit être au plus simple. Ils doivent voir le truc, discuter ensemble et point. Ça veut dire que pour aller au plus simple, il faut très peu de choses. Alors, très peu de choses. Normalement, le modèle numérique, tu l'as. Donc, tu as une petite adaptation, mais ça ne va pas être un surcoût phénoménal. Il faut acheter des HoloLens, mais $5,000 l'unité si tu les achètes directement, mais si tu passes par une agence, elle les a peut-être, etc. Donc, tu vois, le coût, il va être suivant les modifications que tu veux dans ton modèle 3D. Si tu veux aller plus loin en ayant des animations, des trucs un peu, tu vas avoir un coût entre, je sais pas moi, peut-être de 5 à 50 000 euros, je sais pas, tu vois, c'est large.
Ouais.
Mais,
ah ouais. Mais c'est, en même temps, c'est pas forcément un coût important par rapport au risque que tu pourrais prendre. Si
Une plateforme, c'est entre 10 et 100 fois plus cher.
Ah ouais, c'est clair.
Donc, ça veut dire que tu vas avoir un surcoût. Moi, je milite pour que l'intégrateur de la plateforme le propose d'office à ses clients. C'est-à-dire que moi, je dois construire une plateforme. J'intègre ce système directement dans la facturation pour au plus tôt aller valider avec mes clients sur place que c'est bien ce qu'ils veulent et qu'ils me disent bien, ils ont bien vu ce que c'était et c'est exactement ça qu'ils vont avoir.
Donc, ça serait un surcoût d'un pour toi, c'est un premier livrable dans un projet de ce type.
Exactement. C'est un livrable incontournable parce que on voit les choses. Enfin, c'est bête à dire, hein, mais quand on voit tous les deux, clients et fournisseurs, la même chose, on peut discuter sur quelque chose de concret. Je sais pas si je peux aborder, mais c'est vraiment concret. C'est là. C'est pas un plan, c'est pas un truc. Et s'il y a la moindre modification, on la fait tout de suite. Moi, je suis convaincu que pour l'intégrateur,
très intéressant,
le gain de temps est phénoménal.
Ce que je trouve intéressant, c'est ce côté un peu agile dans la méthode Scrum. C'est des méthodes agiles qui sont assez utilisées dans le développement informatique. C'est un peu ce que préconise ce type de méthodologie. Oui. Et ça permet aussi de mettre les gens d'accord, quoi. C'est de se dire entre ce qu'a voulu le client, qu'il a parfois du mal à t'exprimer, ce que va faire le développeur de la plateforme ou de la machine ou du produit dans sa tête à partir d'un cahier des charges papier, des plans. Et je trouve que ça amène aussi cette dimension où on se donne la possibilité dans un projet de valider qu'on est bien en phase, de valider que ça colle bien avant de dépenser, de prendre du retard dans le projet. Enfin, je trouve que c'est vraiment
exactement
tout à fait en lien avec ce type d'approche. Et donc, dans l'industrie, ça devrait parler à des industriels qui
as tout à fait raison. Moi, j'utilise beaucoup dans tous mes projets, alors pas la méthode agile telle qu'on l'entend dans la programmation, parce que des fois, c'est un peu compliqué, mais en tout cas la philosophie de la méthode agile pour dire chaque fois qu'on peut, on fait un livrable, même s'il n'est pas fini, c'est pas grave, il vaut mieux valider un truc qui est incomplet que le compléter et se rendre compte à la fin que on a tout faux, il faut recommencer. Donc, ce système là, il est là pour implémenter, en fait. Il est là pour être toujours d'accord, et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'avec ces outils là, un domaine qui n'était pas forcément le plus agile qu'on puisse imaginer. De l'industrie lourde, hein, faut être clair, hein, quand on met des robots, c'est cher, c'est lourd, c'est vraiment de l'industrie telle qu'on l'entend. Et bien, ce domaine-là peut lui aussi devenir aussi agile que les autres. Simplement, il va utiliser un outil un peu spécifique, mais toutes les composantes, il les a déjà.
Donc justement, concrètement, si on veut, alors la plupart des fabricants de plateformes, enfin des, je suis pas, est-ce que le marché est mature, c'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, tu, à ta connaissance, on a l'utilisation de cette technologie qui est très présente. Moi, je la rencontre pas souvent, en tout cas chez les clients avec qui on travaille. J'ai pas encore l'impression que c'est vraiment entré dans les mœurs, alors que je viens de comprendre que finalement, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, c'est si on suit un peu ce que tu viens de nous dire, effectivement, les plans, on les a déjà, les choses, le développement. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des agences ou enfin des prestataires capables d'accompagner aussi les boîtes là-dessus. Donc, ils doivent faire ça très bien. Donc, ça veut dire que je suis pas obligé, moi, d'investir en interne si je suis industriel, chez un développeur et du matériel. Je peux confier ça aussi à des prestataires. On en est où sur la maturité un petit peu du marché aujourd'hui?
La maturité, elle est complexe à définir. Il n'y a pas une maturité globale parce que la réalité augmentée, dans l'esprit du grand public, elle n'est pas très ancienne. Moi, si j'ai à donner une date, je donne 2007, hein, c'est l'arrivée de l'iPhone. Voilà, ouais. On a En gros, alors c'est à la hache, hein, mais on a dans la main quelque chose qui a toutes les caractéristiques pour faire de la réalité augmentée. Il calcule, il a un grand écran, il a une caméra, voilà, on a à peu près tout ça. Donc à partir de 2007, on voit que le nom réalité augmentée et les illustrations, les use cases se diffusent de plus en plus. Mais la réalité augmentée, elle a commencé dans les années 70-80. Elle est beaucoup plus ancienne. Des grandes industries utilisaient de la réalité augmentée en 90 et en 2000. Bon, ça coûtait beaucoup plus cher, c'était beaucoup plus compliqué, mais ils ont commencé à utiliser ça. Donc, si tu veux, la maturité, elle grandit doucement parce qu'elle est très inégale entre une utilisation de contrôle qualité et une utilisation de formation ou d'installation et de maintenance. Aujourd'hui, la réalité augmentée, elle est utilisée en formation. Il y a même des boîtes qui précisément savent chiffrer le retour sur investissement de cette technologie-là. Le GNFA en Bretagne, qui forme les apprentis de l'automobile, faut aller voir Laval Virtual University, qui a monté pas mal de formations avec des grandes boîtes. Les retours sur investissement, on les connaît. Donc là, il n'y a plus trop de discussion. Même si ça ne veut pas dire que tout le monde l'utilise, hein. Mais en tout cas, si on veut des chiffres, on les a. En termes de contrôle qualité, ce qu'a fait la filière d'Airbus Testia, par exemple, sur les contrôles qualité d'Airbus, sont fiables. Ou la DCNS a fait ça, certains chantiers navals, enfin plusieurs entreprises ont montré qu'on fait des gains, Boeing aussi, on fait des gains phénoménaux en termes de rentabilité, en termes de temps, hein, donc de rentabilité, en utilisant de la réalité augmentée. Donc, on a ces exemples-là, on peut les trouver. Après, on se heurte quand même à une difficulté qui n'est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, les interfaces en eux-mêmes sont pas les plus simples à prendre en main. On a parlé d'HoloLens. HoloLens, il faut un peu de technique pour le prendre en main. Si on n'avait pas eu l'agence DAD, nous, on n'aurait pas fait ça tout seul en achetant notre HoloLens au supermarché. Il y a encore un peu de travail. On aurait pu faire ça peut-être avec en utilisant tablette et smartphone, parce que là, il y a des kits, enfin, il y a des logiciels et des modèles freemium qui permettent de faire pas mal de trucs. Mais quand tu commences à aller sur les lunettes, c'est quand même un peu touchy. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Le côté matériel est en train d'arriver, enfin pas d'arriver, est en pleine maturation. Voilà. D'accord. Moi, je pense, tu vois, on est en 2017. Je pense qu'il va falloir attendre jusqu'en 2020
pour avoir des choses.
On voit plein de trucs qui se passent, hein. Mais de là à avoir des choses, pour être très clair, qu'on achète dans le commerce, entre guillemets, même dans le commerce professionnel, qu'on met sur sa tête et on a notre technicien qui part une journée sur le chantier l'utiliser. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est l'affaire de 2-3 ans, de quelques sauts technologiques, quelques améliorations pour qu'on ait, je sais pas ce qu'on dit sur les lunettes, tu vois, des lunettes qui soient à peu près faciles, par exemple, c'est bête, mais il y a quand même pas mal de gens comme ça, qui tiennent une journée, qui soient pas trop compliqués à calibrer, à utiliser, etc. Où le client puisse avoir la main, un petit peu comme un WordPress, un CMS en fait, ouais, que le client puisse avoir la main pour fabriquer ses scénarios. Parce que forcément, il y a aussi le cas où le client va faire un test, va faire un test sur une machine, ça lui coûte 50 000 euros, ça marche bien, mais chaque fois qu'il change de machine, ça lui recoûte 50 000 euros. Il préférerait payer peut-être 200 000 le premier coup, et puis dire après, moi je fais ce que je veux, je mets dedans. Ouais. On a des outils qui commencent à se stabiliser là-dessus. On a Kitty qui fait des choses très bien, ils ont racheté Vuforia, ils ont intégré ça, ils commencent à faire des solutions vraiment très impressionnantes. Il y a 2-3 boîtes qui commencent dans le côté industriel à avoir des solutions, comme Diota en France, avoir des solutions aussi très, très costauds. Donc tout ça se mature après, comme tout. L'industrie, c'est comme tous les autres secteurs, c'est un monde, un domaine avec ses habitudes. Petit à petit, les choses avancent. Mmh. Petit à petit, en fait, ce qu'on voit, nous, de façon très pragmatique, c'est que pour convaincre un directeur industriel, il faut qu'il teste le truc in situ. Il faut qu'il voit vraiment, il faut qu'il soit devant sa pompe hydraulique, qu'il mette les lunettes et qu'il se rende compte qu'avec ce qu'il y a dans les lunettes et avec l'assistance, Il peut démonter la pompe en 3 fois moins de temps et réparer la panne en 3 fois moins de temps que ce qu'il faisait avant. Alors, le directeur technique, le technicien, tout le monde, hein, toute la chaîne. Quand ils se rendent compte de ça, là, ça part bien. Là, on peut dire qu'on va avoir du succès derrière.
Donc, il faut les aborder sur l'angle de la rentabilité, du retour sur investissement, enfin, finalement, des choses assez pragmatiques, beaucoup plus que sur l'angle des paillettes ou du buzz, quoi. C'est beaucoup plus aller leur montrer quel temps ils vont gagner, combien ça va éviter de perdre d'argent, etc.
C'est ma philosophie. De toute façon, si tu veux aller sur les paillettes, c'est pas des clients que tu cherches, c'est des mécènes.
C'est clair.
Non, mais c'est tout à fait possible. Et c'est une autre façon on peut faire de la réalité augmentée artistique. Et dans ce cas, on va avoir une industrie qui va faire le mécène pour une installation. Il y a des cas extraordinaires. Je vous invite à passer à l'aval virtuel, voir des choses extraordinaires. Mais là, on cherche des mécènes.
D'accord.
Quand on va réparer une pompe hydraulique, c'est rare qu'on cherche un mécène. Okay. On cherche plutôt un client et de toute façon, il va passer à une autre techno que s'il gagne quelque chose. Enfin, on fait tous ça. Hein. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on commence à avoir ces retours sur investissement chiffrés. Et ça, c'est vraiment intéressant.
D'accord. Et donc, dans le secteur industriel, j'ai bien entendu que ça avait beaucoup de sens. Vous l'avez, j'imagine, aussi dans d'autres... tu as dû le voir dans d'autres secteurs. On parlait de marketing tout à l'heure. Moi, j'avais quelques exemples de campagnes qui avaient l'air d'avoir bien fonctionné en utilisant de la réalité augmentée. À mon avis, qui est assez basique, ça ressemblait un peu au Pokémon Go, mais en tout cas, ils avaient le mérite d'avoir intégré cette dimension-là. Ça me semblait pas hyper coûteux à mettre en œuvre, en tout cas, par rapport à la technologie. C'était Mini qui avait fait ça, une espèce de chasse à... Ouais. Je sais pas si tu avais vu le truc, une chasse à la voiture virtuelle dans une ville et tu gagnais une voiture au bout du compte. En tout cas, ils avaient bien fait le buzz là-dessus et la technologie me semblait accessible.
Redoute avait fait ça il y a quelques années.
Oui, c'est vrai.
Chasse au trésor, je me rappelle courir dans les rues pour attraper des cadeaux pour gagner une
série. D'accord.
Et encore une fois, c'est marrant. Ils ont trouvé une façon de mixer de la techno, de l'intérêt, du jeu, une vision de la marque, toutes ces petites choses de façon intelligente. Il y a plein de campagnes de communication qui utilisent de la réalité augmentée, mais où la réalité augmentée sert à rien.
Ouais,
c'est clairement. Vrai, ça... Par contre, ça fait bien. On met.
On est à la pointe, quoi.
Voilà. On a l'impression d'être moderne, et en fait, non. C'est un centre de coût, et souvent, c'est quand même un centre de coût en général un peu plus important que les autres, hein, parce que la technologie n'est pas mûre, mature, enfin, il n'y a pas toutes les agences qui vont proposer ça. Et souvent, la réaction du directeur artistique ou du directeur communication, c'est de dire ça va coûter 3 fois plus cher que le reste. J'ai pas de retour sur investissement chiffré. Déjà, j'arrive même pas à me mettre sur les indicateurs qui vont me dire si c'est une réussite ou un échec. Et ça part en morceaux, quoi. Il n'y aura pas de récurrence là-dedans. Alors que d'autres, tu regardes le catalogue IKEA. Bon, c'est un exemple que je donne parce que je trouve ça vachement intéressant. Le catalogue IKEA, c'est sa 3e ou 4e édition en utilisant de la réalité augmentée. Ils ne sont pas stupides chez IKEA. Hein. Mmh. Si la première fois, ça ne leur avait pas rapporté quelque chose, la seconde, on va dire, je pense qu'on n'en serait pas à la 4e édition.
Ouais, c'est clair.
Donc, on voit que le retour sur investissement, quand on veut le mesurer... Alors, quand on veut le mesurer, ben on peut, hein, parce qu'on peut toujours mesurer des trucs, ça c'est aussi quelque chose d'important, mais quand on fait de la communication, en théorie, c'est la base.
Quand on fait une action de communication. C'est fait bien de le rappeler, c'est pas toujours aussi évident. Mais...
Moi, ça me paraît, c'est peut-être à force de travailler dans l'industrie, mais si on sait pas qu'est-ce qu'on considère, nous, comme une réussite dans la communication, c'est quoi? Je sais pas, moi, je veux 1000 utilisateurs, je veux 3 likes Facebook. Peu importe à la rigueur l'indicateur, je veux être le premier à utiliser ça peut être un indicateur. Mais si on ne l'a pas au début, on ne peut pas, à l'issue d'une campagne, se dire est-ce que c'est un échec, est-ce que c'est une réussite. Ça paraît tellement bête à dire.
Ben, c'est bête, mais malheureusement, moi j'ai souvent l'occasion de le dire, soit dans des podcasts, soit dans des vidéos, soit dans nos billets de blog, on constate comme très très souvent que... Il y a beaucoup de gens qui pensent pas à le faire ou qui le font mal ou qui se fixent pas d'objectifs et c'est vrai aussi dans le secteur industriel, hein.
C'est vrai aussi. Souvent, moi je pousse beaucoup quand j'ai travaillé en direct sur du consulting en réalité augmentée, souvent les objectifs ils sont dans la tête des gens, même s'ils le disent pas. Il faut leur faire accoucher ces objectifs là et surtout leur faire noter pour aussi qu'ils n'aient pas d'objectifs complètement irréalisables. Le pire qu'on puisse arriver, c'est justement ces objectifs non dits. Parce que souvent, on va travailler avec un développeur, une agence, n'importe quoi, qui va comprendre quelque chose, qui va lui se dire « Ok, les objectifs, c'est ça ». Et à la fin, au bilan, on aura quelqu'un qui aura dit bah, « Regardez, ça marche, on a 300 likes ». Mais sauf que c'est pas des likes qui voulaient deux contrats, je sais pas. Ce type de non-dit qui peut pourrir un dossier et qui, pour le coup, en réalité augmentée, peut convaincre le client en face que finalement la techno, ça sert à rien. On a acheté quelque chose un peu plus cher que le reste, on l'a testé, on en reste au prototype et on oublie.
C'est une très bonne introduction, justement, ça, c'était un peu ma question d'après. Donc, on commence déjà, si on veut implémenter ou si on veut mettre en place un projet de ce type, on commence déjà par se fixer des objectifs. Ça paraît…
Je le répète à chaque fois, mais l'idée, c'est de dire si on ne sait pas ce qu'on veut, il y a peu de chances qu'on l'ait.
On l'obtienne.
Donc, ça paraît bête. Hein. Moi, quand je commence à travailler donc sur l'aspect vraiment consulting RH avec un client, j'essaye de voir avec lui les besoins qu'il imagine résolus par la RH.
D'accord.
Si c'est pas clair, on creuse encore. On continue à creuser. Parce que il n'y a pas qu'une technologie dans la vie, même si je préfère travailler avec la réalité augmentée. On peut tout à fait résoudre des besoins avec d'autres technologies. Et souvent, d'ailleurs, on a un mix de technologies pour résoudre tout un tas de besoins parce qu'on les veut moins chers, plus robustes, etc. Donc, travailler sur ces besoins-là, c'est la première chose. Valider que la réalité augmentée, elle peut répondre à ces besoins pour un coût défini, pour un périmètre défini. Enfin, faire toute cette partie-là, ça va permettre de nous dire « Ok, l'objectif, c'est de faire ça dans 2 mois. » Et je vais lancer mon projet sur de la réalité augmentée. Est-ce que je peux utiliser des choses sur étagère? Est-ce que je veux quelque chose qui existe déjà et je veux juste l'adapter? Est-ce que je suis prêt à aller beaucoup plus loin? Est-ce que je suis prêt à faire de la R&D vraiment pour améliorer quelque chose qui existe ou même trouver quelque chose qui n'existe pas? Toutes ces questions-là, je suis assez fatigant, c'est ce que m'ont dit mes clients au début. Bon, après, ils étaient contents, hein, mais… Je suis exigeant.
Ouais,
pour leur faire cracher ces choses-là, parce que c'est pour moi c'est vraiment le plus important. Et j'insiste sur le fait, mais des fois, la conclusion, c'est de dire, mais la réalité augmentée, objectivement, elle va vous servir à rien. Donc, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, soyez au clair que cette technologie autre, elle est plus rapide, elle est moins chère et elle fournira le résultat.
J'apprécie beaucoup ce que tu dis là, parce que ça rejoint exactement ce que je dis souvent à des clients qui veulent se lancer dans des mots, l'inbound marketing, c'est à la mode, tout le monde veut en faire. Et j'ai souvent ce cas-là de gens qui veulent faire de l'inbound, mais qui sont pas au clair avec leurs objectifs. Et je pense que là, ce que tu dis, ça rejoint tout à fait ça, quoi. Il faut.
Il faut être clair avec les clients. Moi, la conclusion, c'est leur dire, OK, on a vu que la réalité augmentée, c'est peut-être pas le plus adapté. Par contre, si vous voulez vous faire plaisir et mettre X milliers d'euros dans un truc de RH,
on peut le faire.
Clairement, non mais exprimez-le, que ce soit pas un non-dit. Et dans ce cas, vous allez vous faire plaisir et on va arriver à ces résultats-là. Et des fois, comme on reste dans une démarche agile, on part avec ce projet-là, puis en fait, on arrive là. Donc, des fois, on arrive à d'autres choses aussi. Il n'y a pas de bonne raison ni de mauvaise raison finalement d'utiliser de la réalité augmentée. Pour moi, il y a juste des objectifs. Point.
Ok. Donc une fois que j'ai mes objectifs, c'est quoi les conseils que tu peux donner? Parce que ça peut paraître complexe si on l'a jamais fait. J'imagine que s'adresser à des consultants ou à des associations ou à des prestataires qui ont un peu cette expérience, c'est peut-être un premier pas. Qu'est-ce que tu recommandes de faire? Comment on peut s'y prendre?
Pour moi, il n'y a pas, là aussi, j'ai vu un peu tous les cas, il n'y a pas de solution toute faite. La réalité augmentée, c'est comme dans toutes les technologies, c'est comme changer votre chaudière. Vous avez l'idée de changer votre chaudière, soit vous savez le faire, soit vous ne savez pas le faire. Quand on ne sait pas changer sa chaudière, on fait appel à un plombier chauffagiste. Ça paraît naturel dans la vie. Quand on ne sait pas faire de la réalité augmentée, qu'on est une boîte, on appelle un spécialiste de la réalité augmentée, plusieurs, et puis on voit si on a le feeling, on essaye d'établir un, un premier cahier des charges. Le premier cahier des charges d'une application de réalité augmentée, c'est pas un cahier des charges technique. Mmh. C'est déjà définir les besoins dont on parlait tout à l'heure. Être au clair là-dessus. Horrible. L'envoyer à quelqu'un en lui disant, voilà, je veux faire ça. Voilà le budget que j'ai. Alors, j'insiste beaucoup aussi. Ça coûte quelque chose. Ouais. Ça va coûter de toute façon. Donc, si vous n'avez pas de budget, dites-le clairement que la personne en face perd pas de temps. Il y a plein de façons de faire des trucs sans budget. Hein. L'argent, c'est jamais un frein. On peut toujours imaginer des choses pour une première étape, quelque chose. Mais par contre, il faut que ce soit clair entre les actions d'affaires. Vous allez avoir le feeling avec un consultant, une boîte qui va vous montrer ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle peut faire, peu importe à la rigueur. Ne pas rester seul, pour moi, c'est extrêmement important. Se faire conseiller. De toute façon, il y a deux façons de faire. Hein. Soit se faire conseiller, soit prendre du temps pour se mettre à niveau dans le domaine. Les deux sont bien. J'ai des boîtes que j'ai accompagnées où on a trouvé que c'était beaucoup mieux d'internaliser la compétence parce que un cabinet d'architecture, par exemple, qui voulait faire de la réalité augmentée pour tous ses clients, ben, clairement…
Il va en avoir besoin régulièrement.
Voilà, il vaut mieux… Il faut que la personne soit suffisamment compétente pour que déjà elle sache ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible. Donc là, ok, on internalise. Pour d'autres cas, on passe par un prestataire. Certains ont besoin d'un consulting en amont pour faire toute la démarche dont on a parlé, pour qu'on leur présente le sujet, pour qu'on voit un peu ce qui est possible, où on en est. D'autres n'ont pas besoin, ont une idée claire, ils peuvent aller voir un prestataire et demander carrément un devis. En fait, comme dans tous les domaines, hein, toutes les voies sont possibles. Le vrai truc, c'est vraiment d'être au clair sur ses objectifs, son temps et son budget. À partir de là
on peut avancer.
Tout va bien se passer.
Ok. C'est vraiment passionnant. Pour conclure un petit peu, je suis sur votre blog, enfin sur le site là, donc augmented-reality.fr. Je vais mettre toutes les références là dans la description du podcast, comme ça les gens pourront y aller. Vous à l'association, vous pouvez aider des entreprises au moins à dégrossir un petit peu en amont. C'est quoi un peu votre rôle par rapport à ça? Comment on peut
On a alors le premier rôle, hein, tu l'as vu, hein, c'est vraiment de faire de l'explication. C'est tous les articles. Si à la rigueur, si quelqu'un veut un renseignement sur un projet qu'il peut avoir en réalité augmentée, il va sur le site, il tape son secteur dans le moteur de recherche et puis il voit si on a fait des articles, des interviews pour avoir une idée. Après, on a mis en place il y a quelques années une agora pour faire se rencontrer des gens qui ont des besoins et des gens qui ont des compétences. On fait pas du travail de consulting sur le site. On fait pas de la réalisation. C'est pas notre but. Par contre, on va aider. On a mis en place un petit formulaire assez simple qui permet aux gens de se forcer à définir ses besoins, où il en est dans sa réflexion, qu'est-ce qu'il veut et quel est son budget. À partir de là, on va dégrossir un petit peu si besoin et on va passer un message aux membres RA Pro, à des cercles plus externes s'il faut, pour que la personne puisse présenter ce proto-projet à plusieurs prestataires et qu'ensuite, ils discutent directement et on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous, on fait juste une aide à la mise en relation.
La mise en relation entre des prestataires.
Voilà. Ensuite, on est dans une relation d'affaires. Enfin, ce qu'on fait tous, hein, on cherche des prestataires.
Bien sûr.
C'est la réalité augmentée que ça change, quoi. Ouais, on est toujours dans cette démarche-là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est juste aider à peut-être éviter de perdre trop de temps et lancer les 3-4 premières pistes qui vont permettre aux clients d'aider encore une fois à maturer son projet, à être plus précis, à s'engager sur des livres, sur des contrats.
Parce que vous avez un rôle qui est vraiment essentiel par rapport à ces technologies-là, enfin, à ces outils-là.
On espère en tout cas dire aux gens qu'il faut y aller. Il vaut mieux, c'est ce qu'on disait au début, c'est dans la démarche agile, hein, il vaut mieux commencer par un petit projet avec quelques points que se lancer sur un truc de 3 ans et qui va coûter une blinde. Il faut voir. La réalité augmentée, il faut la voir. Donc, commencez par un petit proto, trouvez un prestataire avec qui vous avez le feeling, faites quelque chose de simple, montrez-le. Souvent, dans les boîtes, hein, on a les directeurs de l'innovation, les gens qui ont besoin souvent de convaincre au-dessus.
Ouais. Et ben, ça peut être un premier POC.
Faites un POC, un truc simple, avec un cas ultra concret. Ça, c'est vraiment le conseil. On ne fait pas dans la science-fiction, on va tourner un écrou, hein, mais vraiment, c'est ultra concret.
Je trouve que c'est important de le dire parce que voilà. On peut avoir le sentiment que c'est réservé à des projets un peu
voilà, futurs. On le fait.
C'est très concret, quoi, tout ça.
Voilà, il faut que ce soit très concret, il faut que le résultat, en fait, il faut que la promesse soit simple à comprendre et que le résultat soit évident à évaluer. À partir de là, on va rentrer dans la démarche agile, hein. On va augmenter en fonctionnalité, on va rajouter des trucs, ça va coûter plus cher, mais il y aura plus de retour sur investissement. Et puis, tout le comité de direction, quand il aura vu que c'est bon, ça marche, on pourra y aller, on pourra penser investissement. Mais il faut absolument commencer.
Ok, bah écoute, Grégory, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que ça va permettre de dédramatiser ou en tout cas de entre guillemets de vulgariser un petit peu l'usage de tout ça. Moi, ça me paraît beaucoup plus clair. En tout cas, ça l'est pour moi. Tous les liens que tu as cités, là, je les ai notés. Je vais essayer de les mettre pour nos auditeurs dans la liste des dans le petit descriptif du podcast et on partagera sur un billet de blog aussi. Okay. Merci encore pour tout ça. Donc ça, c'était l'épisode 4 de notre podcast Industrial Growth. Le but, encore une fois, c'est de discuter de tous les sujets qui peuvent aider l'industrie française à peut-être à progresser et à développer pour des PME leur business. Grégory, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci, Karim.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.